bain.
À la une, ses projets environnementaux, la FAPE distribue les premiers financements de son nouveau fonds. Ses nouvelles de l'affaire JPK avec la procureure de la République. Et pour terminer, la compétition QS de surf à Papara, les Vainés s'en sortent très bien. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
On commence avec ces fonds locaux pour porter les projets environnementaux.
Oui, c'est une initiative mise en place ces derniers mois par la Fédération des associations de protection de l'environnement, Teora Naho, qu'on appelle aussi la FAPE. Elle est consciente que ces associations membres ne peuvent pas développer toutes leurs initiatives avec les subventions publiques ou avec les fonds internationaux. Très difficile d'accès, comme l'explique le président de la FAPE, Winnie Kissage.
C'est très compliqué, il faut savoir rédiger, c'est pas évident. Les associations qui réussissent, c'est souvent d'ailleurs celles qui ont des professeurs qui sont à la retraite. Il faut souvent être scientifique, il faut expliquer ces choses, il faut savoir présenter un compte d'exploitation, etc., etc. Et en plus, beaucoup d'appels à projets sont en anglais. Rédiger des choses comme ça, des rapports en anglais, c'est pas toujours à la portée de tout le monde. Donc on fait des formations pour les aider, mais c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on a voulu faire un appel à projet beaucoup plus simplifié avec des formulaires. Et d'ailleurs, on a eu 17 ans. Je pense que c'est une réussite.
Et donc un nouveau fonds et des nouveaux formulaires beaucoup plus simples. Et ce fonds, il est abondé par des donateurs locaux, ATN, EDT, Pacific Beach, Comber, Tahiti Tourisme, la Socredo, la TEP ou la TSP. Tous ont mis au pot pour ce nouveau fonds Natura Polynetia. Et les premiers bénéficiaires ont été annoncés hier. Les 4 millions débloqués serviront donc à la protection des dauphins de Rangiroa, à un centre de sauvegarde des oiseaux à Toahutu, et à une ressourcerie à Bora, à un réseau de jardins coralliens à Tahiti, ou encore à la création de sentiers botaniques et pédagogiques à Morea et Raiatea, 350 000 à 750 000 francs par projet. Ça n'est pas la panacée, mais c'est souvent indispensable pour lancer les choses et chercher d'autres partenaires. La FAPE, elle, veut continuer à développer ce nouveau fonds et vise une dotation de 10 à 20 millions d'ici quelques années.
Et on participe à l'UNOC là à Nice, hein, donc en juin. Donc on a une équipe qui se déplace et on va rechercher du financement parce que notre objectif c'est d'avoir du financement pour un fonctionnement pérenne, de manière à ce qu'on puisse avoir quelques salariés à temps plein qui puissent nous épauler pour pouvoir agir. Quoi. C'est ça l'objectif, parce que sinon c'est du coup par coup chaque année on se pose les mêmes questions, comment on va faire tourner la boutique. Voilà, donc l'objectif c'est ça, hein, c'est d'avoir un financement pérenne.
Le trésorier de la FAPE, Jean-Claude Foglia, était au micro de Charlie René.
Et du côté du palais de justice, on reparle de l'affaire JPK.
Oui, une affaire qui traîne depuis 27 ans et dans laquelle il s'agit d'éclaircir les conditions de la mort de Jean-Pascal Courault, ancien militant politique opposé à Gaston Flosse et qui avait été un temps rédacteur en chef des Nouvelles de Tahiti. On vous avait récemment reparlé de ce dossier parce qu'un de ses protagonistes, Tino Mara, était décédé mi-avril. Cet ancien du GIP avait un temps été mis en examen pour meurtre, comme son ex-collègue Toutou Manaté, des mises en examen qui avaient été levées au profit du chef d'enlèvement et séquestration, au contraire de celle de Réré Pupoutaoki qui a été maintenue. C'était il y a 10 ans et rien n'a bougé depuis. Interrogée sur ce sujet ce matin, la procureure Solène Bellawar estime que cette disparition, illustration du temps qui passe, met la justice face à ses responsabilités.
Alors, je ne peux pas vous donner du nouveau immédiatement. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une procédure qui a toujours l'attention des autorités judiciaires, hein, que ce soit du parquet ou bien sûr du juge d'instruction. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est une procédure d'une particulière ampleur qui implique de dégager du temps pour y travailler. Donc nous sommes en train de réfléchir à différentes manières de dégager ce temps pour que enfin on puisse déterminer ce qu'il reste à faire dans ce dossier pour pouvoir prendre une décision sur son orientation.
Voilà, s'organiser pour avancer, c'est ce qui semble avoir été fait puisque les magistrats se sont organisés entre eux pour permettre à la juge d'instruction qui travaille sur cette affaire, la 7e depuis 1997, de se concentrer dessus pour avancer au plus vite. Il s'agit bien sûr de répondre aux demandes de la famille qui signifie son impatience tous les ans en décembre, mais aussi d'enfin faire des choix car en plus de la piste politique dans laquelle les anciens du GIP ont été suspectés, il y a la piste passionnelle, rouverte en 2019 avec deux autres mises en examen pour meurtre, celle de l'ancienne campagne de JPK, Miri Tatarata, et l'ancien ami du couple Francistin, qui clament eux aussi leur innocence. Tous les scénarios sont encore ouverts pour la suite. Écoutez.
toutes les possibilités restent ouvertes, hein, puisque c'est une procédure sur laquelle il pourrait y avoir un non-lieu, c'est une procédure sur laquelle il pourrait y avoir des décisions de poursuite, des mises en cause. Il y a plusieurs pistes à l'étude, comme vous le savez, plusieurs possibilités. Ce qui est important, et je pense que c'est l'attente première de la famille, c'est qu'il y ait une décision, qu'on puisse faire aboutir ce dossier dans les meilleures conditions possibles.
La procureure de la République, Solène Bellawar, qui s'exprimait ce matin depuis le balai de justice et qui ne donne pas à ce stade de calendrier sur les décisions à prendre dans ce dossier.
Troisième et dernière journée du procès d'assises où deux hommes sont poursuivis pour viol.
Et la mère de la victime aussi poursuivie pour non-dénonciation des faits. Les deux hommes encourent 20 ans de prison et la femme 3 ans après avoir entendu un psychologue qui a confirmé ce qui transparaissait depuis le début. Un oncle déficient mental qui a besoin d'un encadrement stable où il prendra ses traitements et un grand-oncle sociopathe égocentrique qui a le sentiment de ne pas avoir fait quelque chose de mal et qui s'estime victime. La parole a été donnée à l'avocate de la victime. Celle-ci a comparé sa cliente à une poupée désarticulée, violée et brisée par deux personnes en qui elle avait confiance et qu'elle aimait, son tonton et son grand-oncle qu'elle appelait papy. Puis après un long réquisitoire où elle a rappelé les faits et la personnalité des accusés, l'avocate générale a réclamé contre le grand-oncle une peine de 15 ans avec période de sûreté des deux tiers et contre l'oncle 5 ans dont un de sursis. Elle a pris en compte l'altération du discernement et pour la mère qui a passé sous silence les faits, 3 ans avec sursis. Les plaidoiries de la défense se poursuivront cet après-midi et le verdict devrait tomber en fin de journée.
Et le gouvernement promet des prix plus bas dans les îles dès l'année prochaine.
Une annonce de Warren Dexter faite hier à l'Assemblée. Le ministre de l'économie, des finances et du budget va proposer l'application d'un taux de TVA à 1% dans les îles à partir de l'année prochaine, dans tous les archipels sauf Tahiti et Moorea. Donc c'est la mesure choc du budget 2026 pour lutter contre la vie chère et aussi encourager l'investissement dans les îles éloignées.
Une grande mesure que je voudrais mettre en place à partir de 2026. L'idée, c'est de remplacer les taux de TVA de 5, de 13 et de 16 % par une TVA unique à 1 % sur toutes les transactions. Évidemment, les PPN ne sont pas concernés puisqu'ils sont exonérés. Également, on va exclure tout ce qui est alcool, tabac et produits sucrés. En revanche, toutes les autres transactions seront concernées par ce taux.
Reste à savoir l'impact de la mesure avec le coût du transport. Un produit vendu 16% ici pourrait donc être vendu 1% là-bas, mais il y aura ensuite le fret et la marge du commerçant à rajouter. L'espoir du ministre, c'est de voir les prix dans les îles se rapprocher des niveaux de prix à Tahiti et à Moorea. Et puis, comme on vous le disait, cette mesure doit encourager l'investissement.
Et puis, le deuxième objectif, je ne m'en cache pas, c'est de susciter l'investissement. Je commence à en parler à quelques chefs d'entreprise et quand je leur dis, écoutez, par exemple, pour faire un hôtel, vous allez avoir que 1% de TVA sur la construction et 1% à l'exploitation, là, ça les fait réfléchir. Donc si ça peut susciter l'investissement dans ces archipels autres que celui de la société, puisque c'est de ça dont il s'agit, moi je serais vraiment content. L'idée de base derrière tout ça, c'est de rattraper le retard de développement qui est entre l'archipel de la société et celui des autres archipels.
Un retard de développement que le ministre a chiffré, plus de 1000 milliards de chiffre d'affaires à Tahiti, 80 milliards aux îles sous le vent, mais pour le reste c'est seulement 18 milliards, toutes les îles confondues. Il faut donc rééquilibrer tout ça et puis cette exonération, ce n'est qu'un petit sacrifice budgétaire pour le pays, entre 500 et 600 millions de francs par an, sur une TVA qui rapporte 60 milliards.
Le changement de jour férié continue à faire débat.
Oui, le texte a été voté hier à l'Assemblée, mais les autonomistes continuent à en parler. Le 29 juin a donc été remplacé par le 20 novembre, le férié ce ne sera plus la fête de l'autonomie, mais les célébrations de Matari Inia. Dans l'hémicycle, hier, Ahip a parlé d'un manque de respect envers une partie importante de l'histoire. Edouard Fritsch a dénoncé une lubie pour contenter un ayatollah révisionniste en parlant d'Oscar Temaro. Et puis c'est le sénateur Tevaro Fritsch qui a aussi réagi. Il a envoyé un communiqué de presse ce matin où il regrette aussi ce changement. Le 29 juin était pour lui l'occasion de rendre hommage aux pionniers de notre histoire récente, écrit-il. Pour lui, fêter le 29 juin comme un jour férié, ce n'était pas célébrer l'annexion d'un royaume par une autre monarchie, mais marquer cette gouvernance nouvelle confiée aux élus du Fénois. Tevaro Fritsch parle d'une revanche politique qui punit les uns au bénéfice des autres et d'un révisionnisme absurde et inquiétant.
Et on continue à vous présenter les candidates pour Miss Tahiti.
Et oui, deux d'entre elles étaient dans nos studios ce matin. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver leurs interviews en intégralité sur les pages Facebook de Radio 1 et Tiaré FM. Petit portrait de la candidate numéro 4, Anavei Kalmagis. Cette pharmacienne est docteur depuis l'année dernière, reçue mention très bien pour sa thèse sur l'utilisation du faux tabac pour soigner la ciguatera. Elle veut remettre le soin par les plantes au goût du jour. Et elle a d'ailleurs privilégié ses études avant de se lancer dans l'aventure Miss Tahiti, pour laquelle elle a de qui tenir, car sa mère, Patricia Servona, a elle-même été Miss Tahiti en 1976.
Moi, c'est vrai que d'abord, je voulais ma thèse. Je voulais terminer, avoir mon petit bagage. J'avais atteint l'âge limite, j'avais 26 ans, je ne pouvais plus. Et cette année, ils ont repoussé. Et je me suis dit, ok, ça c'est un signe, c'est maintenant. Et donc, je me suis lancée, j'en ai toujours rêvé. J'ai toujours voulu ça, et ma maman, qui elle-même a été Miss Tahiti, on a ressorti l'écharpe, j'ai fait des petites photos avec son écharpe il y a quelques années. Je sais pas, ça donnait des petits papillons dans le ventre et ça me donnait envie de faire un petit peu comme elle, de partager ça avec mes parents aussi. Elle m'a juste dit de rester moi-même, de fermer les yeux sur les critiques si jamais il y en a et d'avancer.
Candidate numéro 5 maintenant, Teahi Atea Parao, participer au concours de Miss Tahiti, c'est l'occasion pour elle de montrer qu'elle a réussi à surmonter ses difficultés. Petite, elle avait du mal à se concentrer, à s'adapter. D'ailleurs, elle a subi quelques moqueries. Sa cause, elle est toute trouvée, défendre les personnes qui souffrent de troubles du neurodéveloppement.
Je dirais qu'il y a quelques années, je n'y pensais pas du tout. C'est pas quelque chose auquel je songeais ou je rêvais. C'est des amis qui m'en ont parlé et puis je voulais le faire cette année parce que je me sentais prête. C'est vraiment cette idée de sortir de sa zone de confort. Moi, j'ai jamais porté de talons de ma vie. Puis il y a une certaine pression de l'entourage, la pression de ceux qui nous cadrent, qui nous coachent, mais aussi la pression qu'on se met à nous-mêmes. J'ai plusieurs causes qui me tiennent à cœur, mais je dirais qu'il y en a une en particulier que j'aimerais défendre, et c'est celle des personnes qui souffrent de TND, de troubles du neurodéveloppement. J'ai eu des difficultés depuis toute petite de concentration, et c'est vrai que c'était très difficile pour moi de m'adapter. J'aimerais que les personnes qui en souffrent n'aient pas à subir ça, et qu'elles soient aidées, accompagnées.
Et prochaine étape pour ces deux candidates, la soirée de gala du 31 mai qui sera placée sous le signe de l'artisanat, et puis la grande soirée d'élection prévue le 27 juin prochain à la mairie de Pirée.
Du sport maintenant avec cette compétition de surf à Papara qui doit reprendre demain.
Et oui, cette première étape du circuit QS pour la région Hawaii-Tahiti à Papara, les filles ont tenu bon. Kohei Fiero, Aylan Vast, Takihei et Lakote, Tia Zebrowski et Kiara Gold, qu'on va entendre tout de suite, sont qualifiées pour les demi-finales.
On a tout de suite une belle session, une bonne compétition et du coup, voilà, je suis contente. Mais je me suis dit, bon, la section est trop belle, du coup, bon, j'ai tenté, j'ai atterri un F, mais ma deuxième tentative, bon, j'ai pas réussi, mais prochaine fois.